France Culture.
Réplique. Qu'est-ce que le populisme avec Nona Maillère et Marc Lazare. On met aujourd'hui le populisme à toutes les sauces. L'un des mérites du livre de Marc Lazare pour l'amour du peuple est de donner une définition précise et rigoureuse de cette notion polémique. Le populisme, écrit-il, est une forme plus ou moins élaborée d'idéologie opposant le peuple aux élites, une stratégie de rupture et un style disruptif par rapport au jeu politique classique, l'incitation à l'expression d'une révolte socio-culturelle du bas vers le haut. À mes deux invités, Marc Lazare et la politologue Nona Maillère, je voudrais d'abord demander quels sont les mouvements et les partis en France qu'on peut qualifier à l'heure actuelle de populistes et s'ils représentent un danger pour la démocratie. Marc Lazare.
Mais d'abord, je crois qu'il faut revenir en quelques mots sur cette définition de la notion de populisme, que vous avez raison, c'est un mot fourre-tout, c'est un mot valise, c'est un mot instrumentalisé en politique. Un certain nombre de responsables politiques critiquent et stigmatisent leurs adversaires en les traitant de populistes. Un certain nombre de représentants populistes, dont on va parler certainement aujourd'hui, inversent le stigmate, comme on dit, c'est-à-dire, et le revendiquent avec une accusation forte en disant « nous, nous sommes près du peuple », alors que vous, les partis traditionnels, vous êtes éloignés du peuple. Et c'est une telle difficulté, effectivement, à définir cette notion qui est compliquée, qu'il faut à la fois faire preuve de rigueur et, j'allais dire, de souplesse. Un peu comme François Furet, pour moi en tout cas, dans Le passé d'une illusion, disait quand il essayait de se confronter à la question du totalitarisme pour aborder le communisme, qu'il fallait mélanger justement cette rigueur et cette souplesse. Alors, les trois notions que je rappelle à la fin du livre et que vous avez l'amabilité de citer, en fait, elles réfèrent à toute une production de la science politique avec laquelle je me suis confronté, justement en essayant de les intégrer et en parfois en les nuançant en tant qu'historien. Voilà, c'est cette combinaison, disons, du rapport à la science politique et de l'histoire. Oui, le populisme est une forme d'idéologie très souple. Très très souple, il n'y a pas de grands auteurs qui permettent de faire comme pour le marxisme, le conservatisme, le libéralisme, justement qui font preuve d'autorité en quelque sorte, mais qui opposent donc un peuple uni, bon, vertueux, contre des élites à la fois stigmatisées, corrompues, et avec cette idée que ces élites complotent en permanence contre un peuple qu'elles dominent. Voilà, ça c'est une des premières définitions. Alors il y a des auteurs, bon, très très importants, qui ont beaucoup publié là-dessus. Il y a une deuxième définition, effectivement, c'est le populisme, j'allais dire, comme stratégie pour la conquête du pouvoir ou pour l'exercice du pouvoir, qui très souvent est liée à une forme de style, effectivement, qui veut rompre avec le style traditionnel de la politique, que ça soit dans le langage, mais aussi parfois dans la manière de parler, comme je viens de le dire, mais aussi dans le langage gestuel, hein, ou même parfois la façon de s'habiller historiquement, ça change maintenant. Et puis la troisième définition, là je tiens à le citer parce qu'il est peu connu en France, un chercheur chilien qui s'appelle Pierre Ostigui, qui m'a beaucoup inspiré, parce que lui, il explique que c'est le populisme, c'est aussi l'expression d'une forme de révolte de ce qui serait la culture du bas, contre la culture des élites dominantes. Alors, ça m'intéresse beaucoup. En même temps, je le nuance parce que les historiens ont beaucoup travaillé sur la notion de culture populaire et ils savent que la culture populaire n'est pas complètement séparée de la culture dominante. Il y a une forme d'hybridation, d'interaction. Alors voilà, à partir de ces trois définitions, je crois qu'on peut dire qu'il faut les utiliser avec souplesse et de dire que, par exemple, en France, actuellement, selon moi, il y a effectivement au moins deux grandes expériences de populisme, là celle qui est dominante, le Front National devenu le Rassemblement National, et la France Insoumise, donc un populisme de droite et un populisme de gauche, qui ont des points communs et des divergences. Voilà la première réponse que je peux vous faire, cher Alain Finkielkraut.
Vous disiez qu'on revendiquait le stigmate, ben ça c'est vrai, et de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon que vous citez. Marine Le Pen, dès que vous remettez en cause l'ordre établi par les élites autoproclamées, vous êtes accusé d'être populiste. Alors moi, je l'assume, je l'endosse avec le sourire. Et Jean-Luc Mélenchon, plus brutal encore, je n'ai pas du tout envie de me défendre de l'accusation de populisme. C'est le dégoût des élites, qu'ils s'en aillent tous. Populiste, moi, j'assume. Nola Maillère, qu'en pensez-vous ?
Ben, j'irai dans votre sens et j'irai chercher Jean-Marie Le Pen qui lui disait « Si populisme, c'est défendre le peuple, alors moi, je suis issu du peuple et je suis un populiste et fier de l'être. Hein, » avant même sa fille et avant la gauche. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marc Lazare. Marc Lazare emprunte beaucoup dans sa définition à un politologue qui s'appelle Cass Moode, qui a, avec Kaltwasser, écrit un très joli petit bouquin qui est une courte introduction au populisme. Et donc, c'est un peu ça, c'est le peuple contre les élites, mais c'est aussi, il met beaucoup plus l'accent sur la dimension morale, c'est le peuple sain contre les élites qui sont par nature corrompues, c'est une vision manichéenne du monde. Et puis, je pense qu'il faudrait aussi faire intervenir Jan Werner Müller, qui a écrit beaucoup de choses sur le populisme et qui nous rappelle une chose fondamentale, c'est un anti-pluralisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur. C'est un tout petit ajout à cette définition. Et ça veut dire que c'est le peuple, mais il n'y a qu'un peuple, à l'exclusion de tout le reste. Et c'est donc l'anti-pluralisme et l'anti-corps intermédiaire, anti-médiation. Mais ça, ça me semble important de le rajouter. De la même manière, je pense effectivement qu'aujourd'hui en France, les deux principaux partis populistes, ça serait la France insoumise, du côté de la gauche et de l'extrême-gauche, et le Rassemblement national. Simplement, ce que dit aussi Cass Moode, c'est que c'est une idéologie minimaliste. On ne définit pas un parti par le populisme, ça veut rien dire. D'une certaine manière, la majorité des Français sont populistes, s'il s'agit de dire que la classe politique, elle est très loin de nous, elle ne nous entend pas, etc. Donc, il faut habiller cela d'une idéologie. Et donc, il y a des populismes de droite, de centre, de gauche, des populismes extrêmes et des populismes modérés. Donc, il faut aller un peu plus loin. Et là, je voudrais insister peut-être sur les différences qu'il y a entre le populisme de gauche et de droite, mais peut-être, justement, Cass Moode, j'ai plus travaillé sur la droite radicale populiste, et ça s'ajoute bien à sa définition du populisme. Elles sont populistes, bien sûr, mais il y a deux autres caractéristiques qui sont importantes. La première, c'est l'autoritarisme. C'est la vision d'un monde où il y a une hiérarchie, où il y a de l'ordre, ce qui est au-delà du RN, la caractéristique de la droite, si on prend les vieilles définitions de la droite. Une société où il y a une hiérarchie naturelle. Ça, c'est la première. Et la deuxième partie de cette définition, pour les droites radicales populistes, qu'est le RN, c'est ce que Cass Moode appelle le nativisme. Et c'est la contraction entre le nationalisme et l'ethnocentrisme. C'est donc un populisme autoritaire et exclusionniste.
Ah, alors justement, on va mettre les pieds dans le plat, tout de suite. Nativisme, c'est très intéressant. Et je vous demanderai tout de suite si, selon vous, le thème de la priorité nationale ou de la préférence nationale brandi par Marine Le Pen est un thème populiste. Et votre réponse m'intéresse beaucoup. Marc Lazare.
Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais, à mon tour, si vous le permettez, faire deux petits compléments à ce qu'a dit Nona Maillère. Parce qu'elle a, me semble-t-il, raison d'insister sur cette dimension illibérale qui est présente dans les mouvements populistes et, selon moi, de droite comme de gauche. Mais c'est très intéressant parce qu'historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. J'entends par là que, dans le passé, dans les expériences populistes que j'étudie dans le livre, très souvent, le populisme s'accompagne d'une volonté affirmée d'un régime d'autorité. La grande transformation, le grand changement de paradigme des populismes, que ça soit en France ou dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est de se présenter comme les meilleurs démocrates du monde pour accuser les autres, justement, de ne pas être démocrates parce que eux, ils sont du côté du peuple et d'ailleurs, ils font appel en permanence au peuple, y compris par l'intermédiaire du référendum, par exemple. Mais en même temps, du fait qu'ils considèrent qu'ils sont le peuple, ils n'acceptent pas le fait que, justement, la démocratie, c'est l'institutionnalisation du conflit, la reconnaissance de la pluralité au sein du peuple. Donc oui, ils sont démocrates, mais pas libéraux. C'est un élément très important et nouveau dans les populismes d'aujourd'hui. La deuxième chose, et ce qui est très intéressant, c'est que le populisme peut être de droite et de gauche, et en même temps, il y a une tension interne dans ce populisme, parce que d'un côté, il affirme l'unité du peuple contre les élites, et en même temps, il se situe à droite et à gauche. Et donc, c'est une tension permanente qu'on voit très bien, me semble-t-il, au sein du RN, mais je parle sous le contrôle de Nadine Mayer, qui est l'experte sur le RN, mais aussi de la France insoumise. Par exemple, pour le dire tout de suite, la France insoumise parfois dit clivage gauche-droite, c'est fini, et d'autres fois, au contraire, revendique l'appartenance à la gauche. Alors, j'en viens à votre question.
Ah oui.
Non, je ne l'ai pas oublié.
Merci.
Je ne l'ai pas oublié. Alors, oui, cette question de la priorité de la préférence nationale, elle a un élément tout à fait populiste parce que c'est une définition du peuple qui est donnée. Effectivement, définition du peuple ethno-culturel, c'est-à-dire est français celui qui a du sang français et qui se revendiquerait, qui se reconnaîtrait dans une sorte de culture française qui serait une bonne fois pour toutes établie, qui ne changerait pas. Et en même temps, alors en France, c'est tout à fait emblématique, c'est là où ce populisme est véritablement de droite, c'est qu'il renvoie à la grande expérience et à la grande tradition française de l'extrême droite qui, à la fin du 19e siècle, beaucoup de travaux l'ont montré. On peut penser à Pierre Birnbaum, d'ailleurs, qui avait intitulé son livre comme ça, « La France aux Français ». Et donc là, c'est la grande continuité. Aujourd'hui, c'est préférence aux priorités nationales. Mais au 19e siècle, c'est la France aux Français, comme dans les années 30.
Bien, vous êtes d'accord ?
Je suis complètement d'accord.
Ah, c'est bien, moi je ne suis pas d'accord du tout, c'est génial.
Ah, très bien.
allez-y.
Non, je suis d'accord, parce qu'on pourrait dire que cette notion de préférence nationale, de priorité nationale, qui est une exclusion d'une partie de la population, elle penche plutôt vers le côté droit du champ politique, mais elle est populiste dans cette même dimension. Donc là, je suis un petit peu d'accord. Simplement, est-ce que je peux aller un tout petit peu
vous
plus loin sur cette
droits.
Idée ? J'ai tous les droits. Sur la comparaison entre LFI et le RN. Parce que on vient de parler de démocratie libérale, du piège des populismes qui prétendent incarner la démocratie, etc. Mais il me semble qu'il y a quand même des différences entre LFI et le Rassemblement National, et notamment quand on regarde leurs électeurs, ils sont aux antipodes sur le plan des ennemis qu'ils désignent. Du côté de LFI, c'est les oligarchies financières, c'est le capitalisme. Du côté du RN, c'est la peur de l'Europe, de l'ouverture des frontières, c'est le nationalisme affiché. C'est pas les mêmes ennemis, c'est les immigrés, c'est pas les mêmes ennemis de la France. Et surtout, si on regarde dans nos enquêtes, le mode de gouvernement qu'on désire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on demandait est-ce que c'est bien ou mal comme façon de gouverner, donc ce qu'on a aujourd'hui, des représentants élus. Ben, aussi bien les sympathisants de ces deux partis sont massivement d'accord. Oui, c'est un bon système. Mais ce qui caractérise LFI et le RN, leurs sympathisants, ils sont tous les deux, beaucoup plus que la moyenne, en faveur d'un référendum. Donc ils sont bien populistes. En revanche, le RN se distingue sur deux points. Il est beaucoup plus en faveur d'un gouvernement militaire, pas du tout du côté de LFI, et il est beaucoup plus en faveur d'un homme fort, beaucoup plus que LFI. Donc, il y a quand même des différences qu'il faudrait garder en tête.
Oui, c'est des différences. On va évidemment en parler, parce qu'il ne s'agit pas du tout du même peuple.
Absolument.
Et c'est d'ailleurs deux peuples qui n'ont pas la même couleur, mais on le verra. Mais la préférence nationale, la priorité nationale, là, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de nation sans préférence nationale. Le premier à l'avoir dit, c'est pas un auteur populiste, c'est Rousseau. Comment les hommes l'aimeraient si leur patrie n'est rien de plus pour eux que pour les étrangers et qu'elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne. Et je voudrais citer aussi Michael Walzer, sphère de justice, un philosophe américain de gauche, qui a dirigé la revue Dissent. Et il dit, à un niveau quelconque d'organisation politique, quelque chose comme l'État souverain doit prendre forme et revendiquer l'autorité nécessaire à la pratique de sa propre politique d'admission, au contrôle et parfois à la restriction du flux des immigrants. Et il va encore plus loin, l'admission et l'exclusion sont au cœur de l'indépendance de la communauté. Sans elle, il ne pourrait pas y avoir de communauté de caractère historiquement stable, des associations continues d'hommes et de femmes, spécialement engagées les unes envers les autres, et ayant un souci spécifique de leur vie commune. Donc voilà, c'est ça la préférence nationale. Et sinon, effectivement, c'est une nation sans frontières. Régis Debray, d'ailleurs, a fait un éloge des frontières. Et ce n'est plus une nation, Marc Lazare.
C'est un vrai débat philosophique et politique. Mais dans la conception du Rassemblement national, mais encore une fois, Nona Maillard connaît encore mieux que moi ce sujet, la question de la priorité, de la préférence nationale successivement, puis maintenant de la priorité nationale, ça veut dire un certain nombre de choses qui sont peut-être complètement exclusives de ceux qui, justement, n'appartiennent pas à la nation du fait de leur descendance. Et ça, c'est pas du tout la même notion que celle que vous venez d'évoquer avec les deux citations qui sont des définitions d'une communauté politique qui a évidemment un certain nombre de capacités d'intégration mais aussi d'éventuelles clôtures. Donc, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est vraiment un élément très important à souligner. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le projet de réforme constitutionnelle qu'a déjà déposé le Rassemblement national et dans lequel, effectivement, il y a une révision complète, mais des fondements non seulement de la Constitution de la Ve République et de la IVe, mais même des valeurs universalistes depuis la Révolution française. Donc attention, là, il y a une véritable tradition d'extrême droite qui se combine effectivement avec un élément fondamental qui se résume, d'après moi, très bien dans le mot d'ordre qui est crié dans toutes les manifestations du RN, on est chez nous. Et ce chez nous, c'est pas simplement le chez nous d'une communauté politique, c'est le chez nous de ceux qui, effectivement, seraient français, je le répète, par le sang.
Oui, mais la France n'est pas seulement une communauté politique.
Certainement, elle est aussi une communauté culturelle.
Historiquement stable, oui. Dit Michael Wanser. Et il s'agit aujourd'hui, étant donné le changement démographique auquel nous assistons, du droit des peuples historiques à demeurer eux-mêmes. Oui. C'est ce que d'ailleurs Ortega y Gasset appelle le droit fondamental à la continuité historique. C'est quand même ça qui se joue aujourd'hui et qui est pris en compte par les sociodémocrates au Danemark, puisqu'ils ont établi un contrôle très rigoureux des frontières, mais pas par les sociodémocrates en France, qui considèrent qu'effectivement c'est un thème d'extrême droite et qui tendent à abandonner une certaine angoisse existentielle à l'extrême droite, ce qui me paraît effectivement catastrophique. Excusez-moi, Nona Maillard.
Non, je vous en prie, mais je pense que, en fait, nous sommes d'accord quelque part. Il y a des degrés dans l'affirmation de la préférence nationale. Ça me fait revenir à une distinction entre patriotisme, le doux patriotisme, et le nationalisme, et au-delà, la xénophobie et le nativisme. Il y a des degrés, bien sûr. Nous avons des tas de législations, d'ailleurs, en France même, qui introduisent une dose de préférence nationale pour certains emplois. On considère qu'il faut des nationaux. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est un bloc. Là où le RN va beaucoup plus loin, c'est quand il en fait un principe constitutionnel et dans lequel il est anticonstitutionnel, en fait, compte tenu des principes généraux du droit. C'est autre chose. Donc, nous sommes d'accord, il y a une différence de degré.
Très bien. Merci beaucoup de cette précision. Et vous avez parlé, l'un et l'autre, justement, de démocratie illibérale. Ce thème a été introduit par Viktor Orban. Et c'est une chose dont on parle aujourd'hui. Et on dit évidemment, justement, qu'il y a une volonté d'en finir avec une démocratie constitutionnelle chez ceux-là même qui dénoncent le gouvernement des juges. Et à travers le gouvernement des juges, l'état de droit. L'état de droit serait menacé aujourd'hui au nom de la lutte contre le gouvernement des juges. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et pensez-vous effectivement que le risque d'un gouvernement des juges n'existe pas ? Marc Lazare.
Alors, d'abord, je crois qu'il faut se mettre d'accord sur cette notion de démocratie libérale, peut-être.
Très bien.
C'est parce que, effectivement, on est confronté à quelque chose en France, comme je crois maintenant dans le monde entier, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, à une grande question. C'est-à-dire, comment caractériser ces régimes? Moi, je fais souvent cette comparaison, c'est que nous sommes un peu dans la situation des années 20 ou 30. C'est-à-dire, dans les années 20 ou 30, un certain nombre de penseurs, un certain nombre de responsables politiques se sont dit, il y a la Russie bolchevique, comme on disait à l'époque, de Lénine puis de Staline. Il y a l'Italie de Mussolini, puis à partir des années 30, de 1933, il y a l'Allemagne de Hitler. Ça ne correspond pas aux dictatures classiques. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Et là, le premier qui le dit, c'est un penseur libéral italien qui s'appelait Amendola et qui emploie pour la première fois l'adjectif de totalitaire et qui est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, la notion de totalitarisme. Pourquoi cette nécessité de trouver une qualification et une notion, un néologisme, c'est parce que, disait-il, ça correspond pas à ce qu'on connaissait classiquement de la dictature et de la tyrannie. D'ailleurs, c'est ce que dira Hannah Arendt quand elle parlera du totalitarisme. Oui. Elle le dit très bien dans la pensée politique. On n'avait jamais vu ce type de régime, donc il faut trouver une autre notion. Ben, nous sommes confrontés, toutes choses étant égales par ailleurs, à la même difficulté. Donc l'illibéralisme, je pense que ça revêt deux significations. D'une part, un certain type d'idéologie. On en a déjà parlé tout à l'heure avec Nona Meyer, c'est-à-dire l'idée que on peut se revendiquer de la démocratie, mais on est contre le libéralisme, on remet en cause le droit des minorités et justement, on conteste de plus en plus l'état de droit, voilà. Le pouvoir des juges en particulier, parce qu'on considère que le principe de l'élection, le sacre du citoyen, pour reprendre le titre du livre de Pierre Rosanvallon, vous donne une onction telle que, puisque vous avez l'onction justement du peuple, vous n'avez pas de limite à votre pouvoir. C'est ce que Tocqueville, vous connaissez mieux que moi encore, appelait pour la démocratie en Amérique, la tyrannie de la majorité. Et j'allais dire, hier, on en avait une démonstration éclatante avec la déclaration, vous voyez, je sors de France, mais parce que je crois qu'il faut le faire, avec Donald Trump, où on lui pose la question, quelle est votre limite? Il dit, ma seule limite, c'est ma morale à moi. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, vous pouvez considérer que le pouvoir des juges doit être réduit à néant par l'expression de la souveraineté populaire que vous incarnez. En ce sens-là, il y a une menace. Alors, il est vrai, moi c'est ma position en tout cas, qu'on peut s'interroger sur certaines outrances, effectivement, du pouvoir judiciaire. Je vois bien où vous voulez en venir, mon cher Alain Finkielkraut. Et donc, je le vois incontestablement, il y a un certain nombre, sans doute, d'excès, et ça renvoie du coup au problème de la redéfinition au sein de la démocratie libérale et représentative, de l'équilibre entre les pouvoirs. Mais c'est pas la même chose que de remettre en cause systématiquement le pouvoir des juges et l'état de droit au nom d'une souveraineté populaire qui serait sans limite. Or, c'est ça au quoi nous sommes confrontés actuellement en France comme dans beaucoup d'autres pays.
Alors, vous avez cité Pierre Rosanvallon. Je vais donc le citer à mon tour dans un entretien donné au journal Le Monde. Quand on dit que les magistrats rendent la justice au nom du peuple français, ce n'est pas simplement parce qu'ils le représentent, mais parce qu'ils sont les gardiens d'une souveraineté populaire définie par leurs valeurs fondatrices du contrat social. Les juges incarnent tout autant que les élus le principe démocratique de la souveraineté du peuple. Ces phrases m'ont laissé pantois, je dois dire. Parce que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, je pense encore à Rousseau. Non, à Montesquieu, cette fois-ci. À Montesquieu.
Je pense que c'est mieux.
Je préfère cette référence, d'ailleurs.
En l'occurrence.
Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et qu'est-ce qui arrête aujourd'hui le pouvoir judiciaire? Je veux dire, contre l'extrême droite et ceux qui semblent s'en rapprocher, ce pouvoir élimine les candidats indésirables à l'élection présidentielle. Il retourne le principe de fraternité contre la souveraineté populaire en interdisant, comme le montre Jean-Éric Schuttel, en interdisant aux législateurs d'ériger en délit, dès lors qu'elle poursuit des fins désintéressées, l'aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière. Donc on a l'impression qu'au nom de l'état de droit, les cours suprêmes françaises et européennes criminalisent le droit de l'État. Et c'est pour ça qu'on sent cette révolte. C'est pas pour autant que j'enfourcherai les chevaux du Rassemblement national et de la France insoumise. Dieu m'en garde. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un vrai problème, qui nourrit peut-être le populisme. Nona Meyer.
Dans une démocratie, il faut un système de poids et de contrepoids. Et il n'y a pas que les juges, il y a les médias, il y a tout un tas d'institutions qui permettent d'arrêter le pouvoir, et notamment le pouvoir de l'exécutif, et de donner quelques limites à la souveraineté populaire. Donc, je pense qu'il faut une solution moyenne. Et ceux qui dénoncent le pouvoir des juges, c'est amusant, parce que selon le parti qui est au pouvoir, on reproche des choses contradictoires à ces mêmes juges. Donc, il faut raison garder.
Il faut raison garder, mais il faut un équilibre. Mais je pense qu'il existe aujourd'hui un pouvoir médiatico-judiciaire, une alliance entre Mediapart et certains magistrats. Et qu'a-t-on vu encore? Le Conseil d'État, tout récemment. C'est le Conseil d'État, c'est une instance qui fait partie des cours suprêmes.
Oui.
Eh bien, le Conseil d'État a validé l'écriture inclusive contre l'avis du gouvernement sur les monuments commémoratifs et dans les documents officiels. Donc le Conseil d'État participe à la destruction de la langue française. Donc là, on se dit, ça va quand même, ça va. C'est contraire, alors là, au bon sens, à toute une tradition littéraire dont nous sommes porteurs. Et pourquoi donner un tel pouvoir à une magistrature tellement idéologisée?
Alors, je ne sais pas si elle est idéologisée. C'est pas que je cherche le consensus entre nous, hein, mais au contraire, dans votre émission, on cherche à approfondir une question. C'est ça qui est intéressant. Moi, je reconnais dans une position intermédiaire. Je l'ai dit dans ma première intervention à ce propos. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'il faut comprendre la dynamique qui porte ces mouvements populistes, et je vais peut-être vous provoquer, cher Alain, mais aussi une partie de la droite actuellement dans beaucoup de pays européens qui s'attaquent. Et d'ailleurs, ça a été revendiqué par Bruno Retailleau, hein, oui, dans une fameuse formule qui avait déclenché beaucoup de polémiques sur, justement, sa critique de l'état de droit. Et c'était d'autant plus surprenant de venir de quelqu'un qui n'appartient pas aux formations populistes dont nous parlons ce matin, mais qui appartient à la droite républicaine. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de dynamiques aujourd'hui qui reposent, effectivement, mais sur cette idée de la souveraineté populaire sans limite. Alors, là où, j'allais dire, je vous rejoins, c'est sur deux points. D'une part, et ça, c'est un élément sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, mais je suis sûr que Nana Maillard sera d'accord, c'est que le populisme n'est pas le problème, il est l'expression d'un problème. Ça, c'est fondamental, et d'ailleurs de plusieurs problèmes que moi j'identifie. Problème politique, la défiance politique, un certain nombre d'impuissances, oui, ou de limites au pouvoir politique actuellement. Exactement. Pour de multiples raisons, exactement, absolument. Des questions sociales, très importantes dans nos pays et en particulier en France, et puis de ce malaise culturel et identitaire qui taraude, qui travaille en profondeur, absolument, la société française. Et d'ailleurs, je constate à l'issue de tout le cheminement historique que j'ai fait pour ce livre, qu'à chaque fois où il y a un développement du populisme, même s'il y a des continuités et des changements importants, des aspects inédits aujourd'hui, ça correspond à ces trois causalités, question politique, question sociale et question culturelle. Donc, de ce fait, effectivement, il peut y avoir, par rapport à ce malaise politique, cette idée que le pouvoir, notamment des juges, vous appelez ça le pouvoir médiatico-juridique, je nuancerai un tout petit peu judiciaire, je nuancerai, puisque vous avez pris l'exemple simplement de Mediapart. Alors, j'entends bien que Mediapart est très puissant, mais je le nuancerai quand même. Il me semble qu'il y a d'autres chaînes de télévision qui ont un pouvoir encore plus considérable de Mediapart qui n'arrête pas de taper justement du matin au soir. Mais je veux, nous sommes à réplique et non pas dans une émission qui s'appelle Polémique.
Donc, et nous ne sommes pas à CNews non et plus, nous je pas vous rassure. Non plus.
Voilà.
Je vous rassure complètement.
Donc voilà, ouais. je crois qu'il faut faire attention à la manière dont on s'exprime sur ce sujet. Et en même temps, je reconnais, et je pense qu'il y a une explication, que du fait d'une certaine réduction de la capacité du politique, oui, en tout cas, c'est mon point de vue. Il y a effectivement une possibilité d'extension du pouvoir des juges qui, mais pour une raison aussi qu'il faut bien intégrer, et moi ça je l'ai vu en Italie, comme vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'Italie, et à partir des années 90, on voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire un écroulement des partis traditionnels, et effectivement, le pouvoir judiciaire qui va découvrir toute l'ampleur de la corruption va d'autant plus s'étendre qu'à un certain moment, le pouvoir politique est affaibli. Et en plus, les juges, à un certain moment, en Italie en tout cas, mais je pense que du côté français, ça s'est passé aussi, ont pu penser que c'est par les médias qui pouvaient effectivement dévoiler un certain nombre de choses des politiques, parce que les politiques les mettaient sous contrôle. Donc voilà, on est dans cette situation d'incertitude, dans une situation transitoire, mais je crois qu'il ne faut pas oublier l'importance justement de la reconnaissance de l'état de droit, parce que c'est ça qui est un enjeu fondamental dans notre démocratie aujourd'hui.
Oui, nous sommes d'accord, mais d'un autre côté, vous avez insisté sur l'impuissance du politique, qui, à mon avis, nourrit le populisme. Et d'ailleurs, c'est, je crois, contre cette impuissance que se révoltait Bruno Retailleau, qui voulait, pour une politique qui n'était pas nécessairement populiste, avoir les mains plus libres. Et là, je donne un exemple tout à fait extraordinaire. C'est le Mercosur. Le président de la République va voter contre. Son vote ne comptera pas. Il exprime l'opinion des agriculteurs est d'une très large majorité des Français, et l'Europe, telle qu'elle fonctionne, lui a confisqué ses pouvoirs. Ben voilà, c'est la voie libre offerte à ce que vous appelez l'un et l'autre le populisme, non, Nana Maillard?
Oui, mais qu'est-ce que l'Europe? L'Europe n'est pas quelque chose d'autonome. L'Europe, c'est ce qu'en ont fait les différents États qui l'ont construit au fur et à mesure. C'est un peu facile de prendre comme bouc émissaire l'Europe. L'Europe, c'est nous. C'est la France et c'est les autres pays.
Mais quand la France veut prendre une décision et qu'elle ne peut pas faire parce que Ursula von der Leyen ne le veut pas, ça crée quand même une énorme frustration dans notre pays. Non, vous ne croyez pas ?
Je pense que c'est pas simplement, ce n'est pas simplement la volonté d'une personne.
Non, vous avez
raison. C'est les autres.
Ça, c'est un argument populiste.
C'est un. Hein? Oui, je n'osais pas le dire.
Oui, mais vous pensiez très fort, donc je l'ai entendu.
Bon. Mais donc, ce qui est important, c'est que les autres pays sont sur une autre logique. Alors, bien sûr, l'Europe, c'est quelque chose dont on pourrait imaginer des réformes. C'est quelque chose qui coince à partir du moment où on est 27. C'est pas la même chose que l'Europe des débuts. Donc, on peut imaginer des réformes. Mais c'est trop facile d'en faire le bouc émissaire, comme si ça existait indépendamment des États qui l'ont créé.
Bien. Alors maintenant, nous allons aborder la question du peuple selon la France insoumise. Avant peut-être de le faire, je voudrais vous donner un exemple du style disruptif de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il est beaucoup plus disruptif que ne l'est aujourd'hui Marine Le Pen. Le Rassemblement national veut se dédiaboliser, donc les députés arrivent cravatés à l'Assemblée nationale, alors que les députés de la France insoumise arrivent débraillés. Ça ne veut pas dire que le Rassemblement national ne soit pas pour autant un danger. Mais on peut faire ce constat, l'Assemblée nationale est un lieu maintenant d'insultes, et non pas seulement de polémique. Et voici, cité par André Perrin dans son livre « Paradoxe de la pensée progressiste », ce que disait Jean-Luc Mélenchon à Manuel Valls dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. « Moi, je ne m'assieds pas à côté de ce nazi. Tu n'es qu'une ordure, un pauvre type, une merde. » Et puis, il y a aussi chez lui, et ça m'a beaucoup plu, vous dites que l'ustensile favori du populisme, c'est le balai, depuis le général Boulanger. Et il utilise cette métaphore.
Du balai,
allez, oust, dégagez. Donc, un dégagisme, une violence terrible chez Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est le style disruptif. Et aussi, il y a une idée du peuple qui n'est pas du tout celle du Rassemblement national. Alors, c'est quoi le peuple selon la gauche radicale?
Alors, chez Jean-Luc Mélenchon, ça a beaucoup évolué.
Et ça c'est vrai. Vraiment,
c'est un élément très important. Bien, c'est pour ça que j'ai essayé de le reconstituer dans le chapitre que j'ai consacré à la France insoumise. Mais juste un point sur la violence de Jean-Luc Mélenchon. C'est très complexe. Il est très compliqué, Jean-Luc Mélenchon. Très complexe. Il faut toujours avoir de la nuance quand on essaye de faire ce type de...
Mais il n'en a pas beaucoup, lui.
Ah, ça dépend. Parce que d'un côté, il peut être comme ça. Et de l'autre côté, il peut être dans un tout autre style oratoire, extraordinairement respectueux du langage. C'est un homme qui est nourri d'histoire, nourri de sciences sociales aussi. Et donc, moi, j'ai suivi beaucoup de ses propos sur YouTube, en particulier quand il s'adresse à ses militants. Et donc, c'est un mélange des deux. Et je dirais que de ce point de vue-là, ça va choquer ce que je vais dire, mais c'est un point commun qu'il avait avec Jean-Marie Le Pen sur un contenu différent. Ça, Jean-Marie Le Pen pouvait être très dur, très violent.
Mais il employait magnifiquement le subjonctif.
Voilà. Bon, ce que tout le monde a remarqué. Et Jean-Luc Mélenchon a cette capacité aussi. Donc voilà, tout ça correspond à un certain type de stratégie politique. Alors, sa conception du peuple, elle a évolué. En quelques mots, c'est quoi? Quand il lance le parti de gauche, et puis au doux début de la France insoumise, le peuple, il a deux acceptions. Moi, je l'ai utilisé deux notions que j'emprunte de manière, j'allais dire, non pas pédante, mais pour essayer de faire comprendre. Populus et plebs. Alors, populus, c'est le peuple conscient. C'est un peu l'avant-garde révolutionnaire. C'est la tradition rousseauiste et jacobine de la gauche française. C'est le peuple avant-garde. C'est le peuple qui est très politisé. Et ça, c'est ce qui relève chez lui de sa conscience, de son expérience de gauche. Et la plebs, c'est l'idée les gens. Et en 2017, lors de sa grande campagne présidentielle, il commençait des causeries tous les samedis et il parlait des gens. Et là, c'est effectivement essayer de s'adresser au peuple dans ce qu'on a défini tout à l'heure, l'expression, j'allais dire, primaire du peuple. Mais à côté de ça, et plus exactement progressivement, il a évolué et c'est pas simplement au peuple de gauche auquel il s'est adressé. À partir de 2017, il explique le clivage gauche-droite, c'est fini. Et donc, faut s'adresser aux gens et au peuple français. C'est très important. Par exemple, on ne chante plus l'international dans les meetings de la France insoumise. On n'agite plus le drapeau rouge, mais c'est le drapeau tricolore. Et puis, progressivement...
Et le drapeau palestinien.
Alors, progressivement, mais tout ça, c'est des évolutions progressives chez lui. Et maintenant, il en est venu à une autre conception du peuple. Je vais terminer là-dessus. D'une part, le peuple des personnes en situation de précarité sociale, le peuple des banlieues, le peuple précarisé, le peuple ubérisé, dit-il. Et puis, il va utiliser des notions qu'il emprunte aux sciences sociales, le peuple racisé, et il va parler de peuple métissé, puis peuple créolisé. Absolument.
Et il dit que le français, même, on doit parler, c'est plus le français, c'est le créole.
Tout en parlant, lui, un français parfois absolument oui, parfait. Donc voilà, c'est cet élément très important, et on sent là un changement. Effectivement, c'est pas du tout la même conception du peuple, et ça va plus loin. En ce moment, c'est une nouvelle évolution, puisque Mélenchon évolue en permanence. Il a un discours sur la nation française, Alain Finkielkraut. C'est-à-dire que par rapport au discours national du Rassemblement national, la France insoumise propose une nouvelle version de ce qu'elle appelle la Nouvelle France, qui serait composée de ce nouveau peuple.
Voilà.
Là, c'est un élément important. Un affrontement entre deux conceptions du peuple et de la France.
Oui. Vous citez d'ailleurs un propos qu'il a tenu sans savoir qu'il était enregistré. En 2024, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste laisser tomber, on perd notre temps, là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Donc là, c'est un changement radical. Qu'en pensez-vous, Nana Maillère ?
Moi, je pense que du côté de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est exactement l'inverse. C'est sur un point... ni gauche, ni droite. Ça, c'était la ligne de Marine Le Pen. Jordan Bardella, peut-être un peu moins. Il est plutôt
à droite.
C'est plutôt la droite, toute la droite et rien que la droite, peu comme Marion Maréchal. Donc, on est là sur une ligne qui va peut-être un peu évoluer. Mais en tout cas, Marine Le Pen, c'était très clair. C'était ni gauche, ni droite. Il y a nous et eux. Et tous les autres clivages disparaissent. Sinon, l'autre caractéristique du peuple, c'était les Français. Et tous ceux donc qui respectent les coutumes et les cultures de la France. C'est français d'abord. Sinon, en termes de classe sociale, Marine Le Pen se distingue de pas mal de ses homologues européens en ayant une vision assez large et en faisant appel aux classes populaires et aux ouvriers, aux employés, aux petites classes moyennes. Et plus récemment, ils sont en train d'essayer d'inclure dans ce rassemblement où on trouvait les ouvriers, les employés, les petits commerçants artisans, les producteurs, parce qu'on parle parfois de producérisme. Et chez eux, c'est très important, c'est-à-dire les gens qui travaillent de leurs mains, qui ont la dignité de producteurs, c'est important. Mais maintenant, pour des raisons de stratégie électorale évidente, Jordan Bardella essaie d'élargir du côté du patronat, avec l'idée que ça ne suffit pas. Mais Marine Le Pen, en tout cas, a visé très clairement, et son père avant elle, surtout à partir de 95, les catégories populaires, les ouvriers, les employés. Je dirais une chose, il y a une différence entre Marine Le Pen et son père. Elle a visé très explicitement le peuple féminin. À travers toute l'Europe, il y a ce qu'on appelle le « radical right gender gap ». Les femmes se détournent de ces partis. Et en France, du temps de Jean-Marie Le Pen, il y avait jusqu'à 7 points d'écart entre le soutien des électeurs et des électrices. Avec Marine Le Pen, elle a dit « Moi, je suis une femme, je suis une quasi-féministe, je défends les femmes. » Depuis qu'elle est candidate à la présidentielle, depuis 2012, à chaque élection présidentielle, quelles que soient les autres caractéristiques de la personne, être une femme, les femmes ont voté autant pour elles que les hommes. C'est une exception en Europe.
Oui, mais on peut dire que Marine Le Pen cherche effectivement le vote des femmes, et ce n'est plus le discours viriliste, machiste de son père, mais les classes populaires sont abandonnées aujourd'hui par la France insoumise en faveur des quartiers populaires. C'est un peu la note Terra Nova de 2012, ces gens sont racistes, il n'y a rien à en tirer, etc. Mais ça va plus loin encore. Ça va plus loin encore. Alors, je voudrais vous citer quand même Carlos Martens Bilongo, député de la France Insoumise. On va leur montrer qu'on est les plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous. Nous, il est d'origine congolaise. Nous, on est plus intelligents. Et si on fait plus de gosses qu'eux, eh bien, tant pis pour eux. Alors, il a dit, pour justifier ses propos, je ne désignais pas les Français, mais les racistes. Sauf que, pour lui, comme pour beaucoup d'autres, la grande majorité de ceux que Ouria Boutelja appelle aimablement les sous-chiens sont biberonnés au racisme. Et je voudrais citer Sébastien Delogu, qui est candidat à la mairie de Marseille, excusez du peu. Il était dans un meeting de soutien au candidat de la France Insoumise à Sainte-Soudanie, Béli Bagayoko. Vous avez une opportunité en or afin qu'un racisé dirige cette ville et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Le réel peuple de France. Voilà. C'est comme si la France Insoumise validait l'idée de grand remplacement et la nouvelle France, le nouveau peuple, c'est ça. Et ce nouveau peuple va les porter au pouvoir à condition qu'ils le flattent, d'où les drapeaux palestiniens, d'où les déclarations incendiaires et obsessionnelles d'Emeric Caron et de Thomas Porte. Mais c'est tout à fait fascinant. C'est deux peuples aux antipodes que flatte le populisme de Marine Le Pen et celui de la France Insoumise.
Alors,
Marc Lazare.
Oui, et je vais introduire quelques nuances.
Ah, vous avez raison.
Non, d'abord, première nuance, vous dites, attention, les catégories populaires votent pour le RN, elles ne votent pas pour LFI. D'abord, les catégories populaires s'abstiennent. Ça, c'est le premier élément fondamental, elles s'abstiennent. Mais quand elles votent, oui, incontestablement, elles votent plus RN. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne votent pas LFI. Parce que, oui, bien sûr, il y a du vote pour les quartiers populaires, mais toutes les enquêtes électorales qui ont été faites montrent que, du côté de LFI, il y a aussi un certain type de catégorie populaires, qui n'appartiennent pas simplement aux quartiers populaires, qui se reconnaissent dans le vote de la France insoumise, et c'est ce qu'on pourrait dire le lointain héritage d'une partie de l'électorat communiste, pour aller très très vite, sachant que les catégories sociales, là encore, ont beaucoup changé. Ce que vous pointez, à mon sens, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une dérive plus ou moins consciente de la France insoumise, et notamment, c'est pas n'importe quelle personne que vous avez citée, c'est effectivement des personnes qui viennent de l'immigration et qui tiennent ce discours et qui renvoient à cette conception de la nouvelle France que développe la France insoumise. C'est-à-dire, encore une fois, de parier sur la France racisée, la France métissée, la France créolisée, les Français d'origine immigrée qui se sentent pour un certain nombre de raisons, parfois discriminés, mis de côté, qui sont dans une situation de souffrance sociale. Et je le pense qu'il y a là une dérive dangereuse. Mais attention, et je vais vous donner un exemple d'ailleurs que je cite dans le livre. Il y a un meeting durant la campagne des européennes, si je me souviens bien, ou des législatives, en 2024 à Évry-Courcouronnes, où un député de la France insoumise, en présence de Jean-Luc Mélenchon, s'adresse au public qui est là et dit « Parmi vous, qui est-ce qui a des ascendants étrangers ?» et une forêt de main, bien sûr, se lève et il dit « Eh ben voilà, nous sommes chez nous ». Et Jean-Luc Mélenchon dit « C'est exactement ce qu'il faut faire. La France, c'est cette diversité ». Donc oui, il y a cet élément-là. Mais attention, quand vous regardez les textes, comme j'ai passé beaucoup de temps, et je passe encore beaucoup de temps à lire la production de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, aussi d'une personne très importante maintenant dans la France insoumise qui s'appelle Clémence Guettet,
oui,
qui est vraiment d'inspiration très, très marxiste. Il y a ça, mais il y a encore aussi un discours très marxisant, très, très, très de gauche. C'est-à-dire, c'est pas simplement à cette population qu'il faut s'adresser, c'est essayer de, oui, d'obtenir un consensus populaire dans les catégories populaires qui ne se limitent pas à la diversité. Voilà. Alors, comment la France insoumise va essayer d'associer les deux? C'est son grand enjeu. Et qu'est-ce que ça signifiera en termes de réussite ou pas électorale à la prochaine présidentielle ou même dès les élections municipales? Ça va être très intéressant à suivre. Parce qu'il peut y avoir des avantages, mais ça peut aussi, justement, se heurter à un certain nombre d'oppositions et de résistances.
Ça peut créer même un front républicain, parce que dans la mesure où on voit certains ténors de la France insoumise parier sur l'antisémitisme des quartiers, peut-être à tort, hein, et c'est là quand même la première fois depuis les années 30 que l'antisémitisme devient un argument électoral. On n'avait jamais vu ça. Il ne s'agit pas de la critique de la politique effrayante de Benjamin Netanyahou. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est les Juifs devenus génocidaires. Et c'est un refrain maintenant. Donc, justement, pour capter ce peuple qui ne va pas aux urnes et qui pourrait permettre à Jean-Luc Mélenchon de franchir le cap du premier tour des élections présidentielles. Alors vous, qui avez beaucoup réfléchi à l'antisémitisme Nona Maier, qu'est-ce que vous pensez de ce tournant?
Il y a une évolution étrange depuis surtout le 7 octobre, où l'on voit que, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon est coutumier de dérapages frôlant l'antisémitisme. Après le 7 octobre, il y en a eu beaucoup, dans laquelle il a minimisé l'importance de l'antisémitisme, dans laquelle il a repris des vieux poncifs, associant les juifs à l'argent, à l'international, au pouvoir, avec peut-être derrière une idée électoraliste, ce qui est un peu méprisant pour la population des quartiers, comme si c'était l'antisémitisme était le seul ciment, alors que ce sont des quartiers qui sont dans des situations de précarité intense, et on sait que la précarité, quel que soit le lieu où l'on habite, est devenue aujourd'hui un argument qui fait voter pour le Rassemblement national. En 2012, plus on était précaire, et on a des très beaux indicateurs, le score EPIS, c'est-à-dire les situations d'insécurité économique et sociale, plus on était dans une situation d'insécurité économique en 2012, plus on votait pour la gauche. On avait des entretiens dans les quartiers, justement, où on nous disait « Bon, Hollande, il est pas terrible, mais enfin, on va quand même voter pour lui, parce que la gauche, c'est le cœur. La gauche, c'est le social. » Au bout de 5 ans de quinquennat de François Hollande, c'était terminé. Et plus on est précaire, depuis 2017, plus on vote pour le Rassemblement national. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Mais pour revenir à l'antisémitisme, on arrive à une situation à front renversé, où c'est aujourd'hui, dans nos enquêtes faites tous les ans sur racisme, antisémitisme, pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on voit que la proportion d'antisémites adhérents aux préjugés antisémites de base est en train de progresser du côté des sympathisants de la France insoumise, et depuis 3 ans, est en train de reculer chez les sympathisants du Rassemblement national, Marine Le Pen se présentant, elle et son parti, comme le meilleur rempart aujourd'hui des Juifs de France, des Français juifs, contre la menace de l'islamisme radical. Donc on est dans une drôle de situation, et déjà avant, on avait Reconquête, le parti de Zemmour, qui était une manière de dire « ça sera ma protection contre l'islamisme radical », mais maintenant c'est le parti de Marine Le Pen.
Ça fait froid dans le dos. Mais pour la dernière partie de notre émission, je voudrais que nous parlions d'un mouvement, parce que vous traitez de ce mouvement dans votre livre Marc Lazare, très intéressant, et peut-être le feu couvre-t-il encore sous la cendre, un mouvement populiste, alors qu'il n'avait pas de leader. Et le populisme, c'est le chef. Les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'était? Quelles leçons peut-on en tirer?
Mais c'est d'abord un mouvement social. Hein. C'est d'abord un mouvement social qui part au départ d'une révolte fiscale, comme très souvent d'ailleurs dans le passé un certain nombre de mouvements populistes, commencé par le poujadisme bien sûr, puisque c'est une protestation contre une taxe instaurée par le gouvernement d'Édouard Philippe. Mais très rapidement, ça prend un autre type de tournure. Et moi, j'ai été très frappé, c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre, par un slogan qui était prononcé, hurlé par les manifestants et qui s'inscrivait sur les Gilets jaunes. Et donc, j'ai fait une enquête sur ces Gilets jaunes, par une enquête sur Internet et par un site qui s'appelle Plein le dos, qui donne des photos, justement, de tous ces Gilets jaunes, ces inscriptions que portaient les Gilets jaunes. Et le mot d'ordre, c'est « Nous sommes le peuple ». Et en ce sens-là, oui, il y avait l'idée que les Gilets jaunes incarnaient le peuple et s'en prenaient aux élites, et notamment, ça cristallisait sur la figure d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Les deux, d'ailleurs, avec une violence terrible. Et le mouvement a été violent par les manifestants, violent aussi par l'ampleur de la répression, incontestable, hein, faut vraiment le dire, ça a été une répression très importante. Moi, je qualifie ce mouvement de populisme sociétal, parce qu'effectivement, il n'est pas le fruit d'un parti politique, d'un mouvement politique, il est l'expression du bas, et ça renvoie à la définition de Pierre Ostiguit, cette culture du bas par opposition aux cultures dominantes. Il a refusé la représentation, il s'est plus ou moins démonétisé assez rapidement, mais il avait un mot d'ordre à un moment donné, qui était le référendum d'initiative citoyenne, comme une sorte de sésame, comme une sorte de formule miracle qui résoudrait toute la crise démocratique. Et je pense que ce mouvement est très important, qu'il a laissé des traces. Alors bien sûr, on a énormément d'enquêtes qui ont été faites par nos collègues sociologues, énormément, y compris d'ailleurs par Nona Maier, Emiliano Grossman, mais on voit que c'est un mouvement qui se défiait de la politique, qui très souvent était composé d'abstentionnistes, mais quand ils votent, ils votaient plutôt RN, même s'il y en a certains qui votaient la France insoumise, je vois que Nona n'est pas d'accord, mais je dis bien quand ils votent, mais il restera quelque chose. Ça, je suis absolument persuadé, même si ça se traduit pas pour le moment, parce que ça a révélé un malaise social et politique considérable dans notre pays.
Nana Meyer.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est le populisme par le bas, the bottom up. Et c'est important parce qu'on voit que plus nous, on a fait des enquêtes pour voir qui soutenait ce mouvement. Et 6 mois après la fin du mouvement, il y avait encore une forte sympathie avec le sentiment que d'abord, plus on était précaire, plus on soutenait les gilets jaunes, encore, même après, malgré la violence, plus on adhérait aux attitudes populistes. Il y a le sentiment d'être que la classe politique ne nous écoute pas, qu'elle est corrompue, qu'ils sont à des milliers de kilomètres, qu'ils ne nous respectent pas. Plus on votait pour eux. Et enfin, c'était un soutien de classe, parce qu'on trouvait à la fois des hommes ouvriers de production et des femmes employées de service. C'est là qu'on trouvait le cœur du soutien à ce parti. Et donc, ils n'étaient pas contre la démocratie. Ils trouvaient que la démocratie française fonctionnait mal, et ils demandaient plus de démocratie. Et c'est pour ça qu'ils mettaient en avant le référendum d'hommes d'initiative citoyenne. Donc c'est un mouvement qui est un symptôme, et le malaise dont ils sont le symptôme, il est toujours là.
Mais il y avait une forme de complotisme aussi, puisque par exemple j'ai appris que la rumeur abjecte sur laquelle Brigitte Macron serait un homme a circulé parmi les gilets jaunes. Donc voilà, c'était un mouvement qui avait son intérêt, mais qui a connu un certain nombre de dérives, d'ailleurs, dont j'ai moi-même été une des victimes tout à fait collatérales, pas loin de l'endroit où j'habite. Bien, en tout cas, je voulais vous remercier l'un et l'autre pour cette discussion passionnante. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Marc Lazare, « Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle ». Il est publié aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Maltka, à la technique aujourd'hui, Éric Audrat.